Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire à 63 coups de couteau. Pourquoi un tel carnage? J'aimerais tant vous donner la réponse. C'est un meurtre qui date de février 2015 à Toulouse, celui d'une jeune mécanicienne de chez Airbus qui s'appelait Maureen Jacquier. On a trouvé son meurtrier et il a été condamné. Mais le mobile reste assez mystérieux. Pour le débrief, j'ai choisi le ténor du barreau de Toulouse, maître Georges Catala, avocat de la partie civile dans cette affaire. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est une peur, je crois, que chacun de nous a expérimentée. Une peur irrationnelle qui fait régulièrement grimper notre adrénaline. On appelle un proche, un parent, un enfant, un ami sur son portable. Ça sonne, et puis messagerie.
Messagerie Orange.
On rappelle une fois, deux fois, trois fois, et puis on se dit, et s'il lui était arrivé quelque chose, hein? C'est à peu près ce que vivent monsieur et madame Jacquier en février 2015. Ils habitent Lyon, et leur fille Maureen, qui a 19 ans, vit à 500 km de là, à Toulouse. Et ils sont en route pour aller la voir. Et sur l'autoroute, madame Jacquier appelle plusieurs fois. Et Maureen ne répond pas. Vous savez comment on se rassure dans ces cas-là? Elle a dû laisser son portable dans un coin, et elle l'entend pas, puis c'est tout. Mais oui, t'inquiète pas. D'accord. Mais en même temps, ils la connaissent, Maureen. Comme toutes les jeunes de sa génération, elle a son portable greffé au bout de la main, une prolongation d'elle-même. Mais bon, elle a dû l'oublier dans un coin. On va faire semblant de le croire. Quand les parents arrivent à Toulouse, vers 22h30, ils vont se garer devant la petite résidence où habite Maureen. Il est tard, mais elle leur a dit qu'elle avait préparé à manger et qu'elle les attendait pour dîner. Il sonne à l'interphone, pas de réponse. Alors il tente encore de l'appeler sur son portable. Messagerie. Mais qu'est-ce qu'elle fige, mon Dieu? Coup de chance. Maureen habite au rez-de-chaussée. Et donc le père fait le tour de l'immeuble. La baie vitrée est entrouverte et le volet roulant baissé, mais pas jusqu'en bas. Maureen fait ça souvent pour permettre à son chat de vivre sa vie. Monsieur Jacquier se glisse sous le volet et le voilà dans le séjour. Il va vers la chambre de sa fille. Et il tombe sur une scène terrifiante. Du sang partout, sur les murs, sur le radiateur et sur le sol, bien sûr. Et coincé entre le lit et le mur, Maureen. Le père pousse un hurlement. Il ne prend même pas le temps de vérifier si elle est morte ou vivante. Il sort. Il est arrivé quelque chose de grave à Maureen. Il y a du sang partout. Il faut appeler les pompiers. La mère appelle les pompiers.
Une équipage est en route, madame. Vous savez faire les massages cardiaques? Allez vous positionner près de la victime et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire.
La mère s'approche de Maureen. Elle se penche. Elle est froide. Elle est morte. Il n'y a plus rien à faire. C'est la police judiciaire de Toulouse qui débarque. Maureen est en pyjama, enfin, pas tout à fait. Elle a un short et un débardeur. C'est comme ça qu'elle dort en général. Eh bien, dis donc, c'est une sacrée massacre, hein? Coup de couteau, on est d'accord? On est d'accord? On les compte? Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 ici, 4, ici 5, 63. Il compte 63 coups de couteau, au point que le corps est comme déchiqueté, des plaies très profondes. Et des lésions de défense aussi, aux avant-bras et aux mains. Maureen s'est protégée. Elle a résisté à son ou ses agresseurs. Bon, vu le souk, c'est ici que ça s'est passé, hein? Ça s'est passé dans la chambre. Le reste de l'appartement est parfaitement en ordre. Donc on part sur l'hypothèse d'un voleur? Ben non. Je crois pas, regarde. Les tiroirs ont pas été ouverts. La télé est là. L'ordinateur aussi. Regarde dans son sac à main. Voyons. Ah, mais t'as raison, a priori tout est là, un papier d'identité, carte bancaire. Donc c'est pas un cambrioleur qui a fait ça. Et puis regarde, il n'y a pas de trace d'effraction. Ni sur la fenêtre, ni sur la porte-fenêtre. Les gars de la scientifique arrivent à leur tour. Ils passent toute la nuit à effectuer des prélèvements. Et ils placent de nombreux objets sous scellés, y compris les draps et les oreillers. Et viens voir, je suis dans la salle de bain. Regarde la serviette sous le lavabo, là. T'as vu les traces dessus? C'est comme si on avait essuyé un couteau avec. Ah oui, t'as raison. Regarde les stries, là, c'est la lame du couteau, ça. Avec un peu de chance, on va trouver de l'ADN là-dessus. Vous me placez ça sous scellé, s'il vous plaît. Un autre objet retient l'attention des policiers. Une lampe frontale couverte de sang dans la chambre. Dites, messieurs, dames, est-ce qu'à votre connaissance, votre fille avait ce genre de lampe? Oh non, je crois pas. En tout cas, je l'ai jamais vue avec ça. Donc, possiblement, elle appartient au tueur. D'autant plus qu'elle a été éventrée, les piles qu'elle contenait ont roulé au sol. Moi, je vois bien la scène, hein. Le type rentre avec sa frontale allumée pour progresser dans l'appartement. Quand il l'empoigne, elle lui arrache la lampe et les piles tombent par terre. Dernière étape pour les gars et les filles de la police scientifique, et elle va vous surprendre, il pulvérise du Blue Star. C'est étonnant parce que du sang, il y en a partout dans la chambre. Mais ailleurs, dans le reste de l'appartement, est-ce que d'autres traces auraient pu être nettoyées ou effacées? Positif, hein. Il y a du sang dans la salle de bain, et pas qu'un peu, hein. Le gars a fait un peu de ménage. Pourquoi? Ça, j'avoue que pour l'instant, c'est pas clair. Le lendemain, les parents et la sœur de Maureen sont entendus au siège de l'APJ. Et c'est toujours un moment en rut, ça, pour des gens qui viennent de perdre leur fille et leur sœur dans des conditions effroyables. Que faisait-elle dans la vie, votre fille, monsieur dame? Elle était mécanicienne dans l'aéronautique chez Airbus, ici à Toulouse. Mécanicienne. Oui, c'était sa passion depuis toute petite. Et quand elle a eu 15 ans, il y a 4 ans donc, elle a trouvé un lycée, ici à Toulouse, spécialisé dans la mécanique pour les avions, quoi. Elle a eu son diplôme l'année dernière et elle a été embauchée tout de suite par Airbus, comme la plupart des copains de sa classe d'ailleurs. Et elle faisait quoi exactement chez Airbus, vous le savez? Elle travaillait sur les chaînes de montage de l'A330. Et elle était restée en lien avec ses camarades du lycée, à votre connaissance? Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Ils ont quasiment tous été embauchés par Airbus. Elle avait un petit ami. Oui, enfin récemment, elle avait changé de petit ami. Faute de mieux pour l'instant, les policiers décident d'explorer cette piste, celle des petits copains, des amoureux. Il s'avère que quand elle était encore au lycée, Maureen sortait avec Guy, un copain de sa classe. Et puis elle l'a quitté pour Yvan, 7 ans de plus. Et quand Yvan l'a quitté, un mois avant sa mort, elle s'est mise en couple avec Julien. Julien, c'était son tuteur au travail, chez Airbus. Les policiers retournent sur place, dans sa résidence, pour interroger les voisins. Avec cette difficulté, ils ne savent pas précisément quand Maureen a été tuée. Comme elle était en tenue de nuit et que son meurtrier portait une lampe frontale, pour l'instant, ils partent sur l'hypothèse qu'elle a été tuée pendant la nuit qui précède la découverte de son corps. Bonjour, messieurs, dames. Police. Je pense que vous savez qu'un homicide a eu lieu dans votre résidence. Est-ce que vous avez entendu quelque chose au cours de la nuit, pas la dernière, mais la précédente? Ah non? Rien du tout? Un bruit, un cri, rien. Ah non, rien. Vraiment désolé.
En sortant de leur tournée des voisins, les policiers sont stupéfaits.
Moi, ça me paraît fou qu'il n'y en ait pas une qui ait entendu quelque chose. Vu le carnage, 63 coups de couteau, ça a dû faire du bruit quand même. Même les voisins de palier de Maureen n'ont rien entendu. En revanche, ils disent qu'ils ont vu Maureen vivante, donc, le matin même de la découverte de son corps par ses parents. Ah oui, j'en suis sûr et certain. Je l'ai vu, elle est allée jusqu'à sa voiture au parking. Et après, elle est revenue. Elle a dû aller chercher quelque chose. D'accord, mais c'était à quelle heure, ça? 10 heures? 10h15, je dirais. D'accord. Vous vous souvenez comment elle était habillée? Oui, elle avait un jogging. Un jogging noir avec des lignes roses. Là, il y a un problème. Parce que si elle était vivante à 10 heures, ça voudrait dire qu'elle a été tuée dans la journée et pas la nuit précédente. Alors pourquoi est-ce qu'elle était en pyjama? Et pourquoi son meurtrier avait-il une lampe frontale? À moins que le voisin de palier se soit trompé. Qu'il ne l'ait pas vue le matin même, mais la veille. Bon, alors j'ai regardé le relevé détaillé de son portable. La dernière fois qu'elle se sert de son portable, c'est bien dans la nuit du 26 au 27, hein, précisément à 0h40. À partir de ce moment-là, aucune activité. Or, d'après ce que disent les parents, la gamine utilisait beaucoup son portable au réveil, systématiquement. Tu sais comment sont les jeunes aujourd'hui, hein, à peine levés, ils sont déjà sur Facebook. Donc, elle a bien été tuée dans la nuit, après 0h40. Et donc, le voisin qui a dit qu'il l'a vu le lendemain, ben, il s'est trompé, quoi. Ça arrive. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Retenez cette leçon. Il ne faut jamais faire 100% confiance à un témoin. Même s'il est sympathique. Même s'il est convaincant. Vous n'imaginez pas le nombre de soi-disant témoins qui racontent n'importe quoi. Donc, elle est morte dans la nuit. À cause des 63 coups de couteau, les policiers continuent de pencher pour un meurtre passionnel. On ne tue pas quelqu'un de 63 coups de couteau si on n'a pas un compte à régler avec lui. Mais est-ce qu'on peut pour autant écarter la piste d'un rôdeur? Notre fille avait un chat. Et donc elle avait pour habitude de laisser le volet roulant de sa baie vitrée entrouvert pour qu'il puisse aller et venir. Donc il est peut-être rentré par là. Mais c'était forcément quelqu'un qui savait qu'elle laissait la baie vitrée entrouverte. Les policiers tentent de reconstituer l'emploi du temps de Maureen dans les heures qui précèdent sa mort. Elle a travaillé chez Airbus de 16h à minuit 40. Et elle est rentrée chez elle en voiture. Et ça, on le sait grâce à son meilleur ami Quentin, qui semble être le dernier à l'avoir vue vivante. Elle m'a déposé chez moi, en passant. Et vous habitez loin? Non, à 300 mètres de chez elle. À quelle heure est-ce qu'elle vous dépose chez vous? 1h12. Oh, c'est précis, ça. Je me souviens, j'ai vu l'heure sur mon micro-ondes. Vous vous connaissiez depuis combien de temps avec Jackie et Maureen? Ben, depuis le lycée. Quel genre de relation vous aviez avec elle? Amicale. On était très amis. Amis? Et seulement amis? Ben, oui. Vous n'aviez pas de sentiments pour elle? Ben, vous aviez des sentiments pour elle ou pas? Ben, oui. Un peu. À partir de là, le jeune Quentin comprend qu'il devient suspect. Qu'est-ce que vous faites, vous, à partir du moment où elle vous dépose chez vous? Ben, je reste chez moi. Est-ce que quelqu'un peut en attester? Ben, non, j'habite tout seul. Dommage. Vous accepteriez de vous soumettre à un test ADN, monsieur? Un test ADN? Oui, bien sûr. Les policiers perquisitionnent son petit appartement, ils passent au crible son téléphone portable, et ils ne trouvent rien. Les policiers s'intéressent ensuite aux trois ex de Maury. Guy, d'abord, qui était son petit ami au lycée. Bon alors, ils se sont séparés depuis 2 ans, et c'est elle qui a rompu. Lui, d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas trop accepté. Il l'a harcelé, au point qu'elle est allée faire une main courante au commissariat. C'est intéressant, hein, ça. Et il a accepté le prélèvement ADN. Oui, il a accepté sans problème. Le suivant s'appelait Yvan. Il avait 7 ans de plus que Maureen. Bon, alors lui, d'après ce que j'ai pu recueillir comme info, donc c'est lui qui la largue du jour au lendemain. Et là, pour le coup, c'est elle qui s'accroche pour essayer de le reconquérir, mais bon, elle n'y est pas arrivée. Et donc lui aussi, il a accepté le test ADN. Le dernier amoureux de Maureen, c'est Julien, son tuteur chez Airbus. Ils n'étaient ensemble que depuis quelques semaines. Ben moi aussi, j'ai travaillé comme elle, jusqu'à 00h40. Ensuite, on est sortis ensemble de l'usine. On s'est embrassés sur le parking. Et moi, je suis rentré chez mes parents, j'habite chez mes parents. Et lui aussi accepte de faire un test ADN. Si les policiers s'évertuent à faire des prélèvements ADN systématiques dans tout l'entourage immédiat de Maureen, c'est parce qu'ils viennent de recevoir une excellente nouvelle du labo.
Donc on a dégagé un ADN masculin exploitable, hein, sur la serviette de bain ensanglantée qui a été trouvée dans la salle de bain. Et là, il est mélangé avec l'ADN de la victime. Donc je pense que ça permet de le relier au crime. Hein.
Alors ? Est-ce que l'ADN de Quentin, de Guy, d'Yvan ou de Julien match avec l'empreinte retrouvée sur la scène de crime?
Négatif, hein. Aucun des quatre ne match.
Il ne matche pas non plus avec l'un des ADN qui figure dans le fichier national des empreintes génétiques. Mais la certitude que c'est par l'ADN que cette affaire sera résolue grandit quand les policiers reçoivent un nouvel appel du labo.
Précédemment, sur la housse de couette, hein, de la jeune femme, et alors sur la lampe frontale, hein, qui a été retrouvée sur place.
C'est l'ADN du tueur, c'est quasi certain. Le problème, c'est que si les policiers n'ont rien à le comparer, il ne sert à rien. D'où la décision de la juge d'instruction.
Bien, alors vous engagez des tests ADN dans tout l'entourage de la victime, qu'est-ce que vous voulez? Donc l'ADN est masculin, donc vous vous concentrez sur les hommes, hein, et puis vous procédez par cercle, les amis, les collègues, les voisins, etc.
Ça veut dire, madame la juge, qu'on est parti pour des dizaines et des dizaines de prélèvements, hein.
Oui, j'en suis parfaitement conscient. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas le choix, hein. On part à la pêche, et puis c'est tout.
Les policiers prélèvent l'ADN de 150 garçons dans l'entourage de Maureen. Et un peu moins de 6 mois après le meurtre. Bon les gars, excellente nouvelle. On a enfin un nom à coller sur l'ADN dans l'affaire Jacquier. C'est un collègue de la gamine chez Airbus. Il s'appelle Sylvain Boulet. Il a 25 ans et on l'a déjà interrogé dans le cadre de l'enquête. Le miracle de l'ADN. Ce Sylvain Boulet est le meilleur ami d'Yvan, l'ex de Maureen. Et donc ils se sont vus pendant toute la période où elle sortait avec Yvan. Mais depuis, il ne faisait plus vraiment partie de son entourage. S'il n'y avait pas eu son ADN sur la scène de crime, on serait sans doute passé à côté. Les flics disposent de la preuve suprême, l'ADN. Ils pourraient très bien aller arrêter le gars tout de suite. Mais ils préfèrent attendre un peu, le temps de bétonner leur dossier. Bon, j'ai regardé le bornage de son téléphone portable. Entre 2h15 et 4h du matin, son téléphone est éteint. Il n'accroche aucune borne. Son téléphone a-t-il été éteint volontairement? Ben, c'est probable. Comme quelqu'un qui ne voulait pas qu'on le piste. C'est bon. Les policiers ont assez d'éléments, et donc 3 mois et demi après le meurtre de Maureen, la juge ordonne son arrestation et son placement en garde à vue. Il est interpellé chez lui à 6h du matin, il n'oppose aucune résistance. Ni surprise d'ailleurs, ni émotion. Il est froid comme une merde de goujon. perquisition de son appartement. Et là, surprise. Dites, monsieur, c'est quoi tout ça? Ben, c'est rien. C'est des couteaux que je collectionne. Des dizaines de couteaux de toutes tailles. Il y en a même un sur la table de nuit. Et il y a aussi des revues spécialisées dans les armes blanches. Il y a un taser et un pied de biche. Alors, monsieur Boulet, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre emploi du temps au cours de la nuit du 26 au 27 février dernier? De mémoire, j'ai fini le travail minuit et demi. Et comme c'était un jeudi soir, bah comme souvent, je suis allé boire des verres dans un bar. Et jusqu'à quelle heure vous y êtes resté dans ce bar? Jusqu'à la fermeture, vers 3h du matin. Et après? Ben après, j'étais fatigué, donc j'ai dormi un peu dans ma voiture sur le parking. À cette heure-là, monsieur, votre téléphone était coupé. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ben, je voulais économiser la batterie. À quelle heure est-ce que vous rentrez chez vous? Vers 4h du matin. S'il n'y avait pas son ADN sur la scène de crime, ça serait assez convaincant. Quel genre de relation vous aviez avec Jackie et Maureen? Normal. Une collègue, quoi. Non, mais vous la trouviez comment? Jolie? Oui. Elle était super mignonne. Vous avez couché avec Maureen, monsieur Boulet? Non. C'est jamais rien passé entre Maureen et moi. Vraiment rien, monsieur Boulet? Au max, j'ai dormi chez elle une nuit. Je me souviens, c'était l'année dernière, en juillet. Il s'est rien passé. Hein. Les policiers le mettent alors à maturer, comme on dit, dans une cellule. Et il a dû sacrément gamberger, parce que le lendemain matin, il change son récit. Hier, je vous ai dit que j'avais jamais couché avec Maureen. Mais c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que vous nous avez menti? Parce que j'ai une copine. Je voulais pas tout mélanger, je voulais pas qu'elle l'apprenne, quoi. Au cas où ça sortirait d'ici. Et ça s'est passé quand, cette coucherie? En juin dernier. Une seule fois, hein. Assez financé. Les policiers décident d'abattre leur carte maîtresse. Alors, monsieur Boulet, pouvez-vous nous expliquer à présent pourquoi nous avons retrouvé à 3 reprises votre ADN sur la scène du crime? Ah bon? Et où vous l'avez trouvé? Sur sa couette, par exemple. C'est normal, puisqu'on a couché ensemble. On trouve aussi votre ADN sur une serviette qui est pleine de sang dans la salle de bain. Je suis allé chez elle en décembre. C'était 2 mois avant sa mort. J'ai dû me laver les mains. Votre ADN, monsieur, est aussi sur une lampe frontale retrouvée sur place. Oui, elle est à moi, cette lampe. Je l'avais oubliée chez elle. Il a réponse à tout. N'empêche que la juge le met en examen pour meurtre et il se retrouve derrière les barreaux. Et maintenant, la question du pourquoi. Le mobile. Enfin, on ne tue pas quelqu'un de 63 coups de couteau sans raison. Au premier abord, le garçon a l'air d'être le gendre idéal. Mais les policiers interrogent sa petite amie du moment et ils découvrent un pan insoupçonnable de sa vie. C'est quelqu'un qui aime le sexe, disons, un peu bizarre, quoi. Bizarre à Coman. Mais disons qu'il m'attache au lit avec des menottes. Et c'est tout. Non, après, il aime bien faire comme si il m'étranglait, quoi. D'accord. Autre chose, il aime aussi mettre des films porno quand on baise, quoi. Et aussi, parfois, il me filme avec sa caméra. Autrement dit, l'oiseau est une bite montée sur pattes, qui trompe régulièrement sa copine, qui se paye parfois des prostituées, ce qui n'en fait pas un meurtrier. Mais ça éclaire le contexte. Ce type aime le cul. Et on imagine aisément qu'il voulait coucher avec Maureen. Et voilà donc le scénario qui est retenu par la juge d'instruction. Il sort du bistrot, il est un peu bourré, il va chez elle dans le but de la violer. Il entre par le volet roulant qui n'est jamais fermé. Elle résiste, elle se débat, elle crie, et bim, il lui balance un premier coup de couteau, et dans la rage, 62 coups de couteau supplémentaires. Mais ça restera une hypothèse, parce que jusqu'au bout de l'instruction, Sylvain Boulet nie. Par ailleurs, les couteaux qu'on a retrouvés chez lui ont été analysés en détail. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Dans la perspective du procès qui s'annonce, l'ADN pèse lourd. Mais il a une toute petite chance de s'en tirer. Le procès de Sylvain Boulet a lieu en janvier 2019 à Toulouse. Et lui n'a pas bougé d'un iota. Bah oui, on retrouve mon ADN chez elle. Mais je leur dis, j'ai eu une relation sexuelle avec elle 7 mois avant. 7 mois avant, monsieur? Et elle n'a pas lavé sa couette ni sa serviette de bain? Bah vous savez, Maureen, c'était un peu une ado pas finie, quoi. Elle était bordélique, et elle faisait pas beaucoup le ménage. D'accord, monsieur. Mais enfin, de là, ne pas laver sa serviette de toilette pendant 7 mois. Le président de la cour d'assises fait alors projeter les photos de la scène de crime. Vous observerez la violence des coups portés. Hein. Sachez que la mare de sang au milieu de laquelle se trouve le corps, là, mesure 1,20 m de diamètre. 1,20 m. Mais en face, maître Simon Cohen, l'un des avocats de Boulet, ne lâche rien. Je crois qu'on oublie ici qu'un voisin a vu Maureen Jacquier vivante le lendemain du jour où l'instruction dit que le crime a été commis. Et que le lendemain, M. Boulet a un alibi. Par ailleurs, il n'y a dans ce dossier aucune trace d'effraction. Alors on nous dit qu'elle laissait le volet roulant de sa chambre entrouvert pour laisser passer son chat. En février? Elle laissait son volet roulant ouvert la nuit en février? En plein hiver? Ce dossier ne tient que par l'ADN. Et concernant l'ADN, mon client fournit des explications. Alors je vous le dis, il n'y a pas eu dans cette affaire de quête de vérité. Si on suit l'accusation, nous allons à l'erreur judiciaire. Nous allons à l'erreur judiciaire. L'expert psychiatre n'a relevé aucune pathologie mentale chez Boulet. C'est vrai qu'il avait des jeux sexuels et un appétit pour la chose. Mais je ne vois pas de toute puissance chez lui. Il n'y a pas eu de passage à l'acte dans son parcours. Il est assez délicat de conclure. Est-ce que vous pourriez nous dire, docteur, dans quelles circonstances un homme peut être amené à donner 63 coups de couteau? Il faut une situation explosive de tension extrême, insupportable. Une excitation sexuelle très forte qui peut basculer vers une excitation sadique. Mais je dirais que dans les cas similaires que j'ai pu voir dans ma carrière, le sujet reconnaissait la plupart du temps. Est-ce que ça peut l'aider à sauver sa peau? Pas sûr. Au terme du procès, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle. Et après 3 heures de délibéré, les jurés le suivent. Boulet est condamné à 30 ans. Il fait appel et prend à nouveau 30 ans, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Et voilà, la justice est passée. Mais le mobile reste en partie un mystère. Et pour débriefer cette histoire, je vais maintenant faire appel à vous, maître Georges Catala, ténor du barreau de Toulouse. Vous êtes dans ce dossier avocat de la partie civile, en l'occurrence de la famille de Maureen. Bon, 30 ans, 20 ans de sûreté, c'est quasiment perpète, c'est la peine maximum pour le coup.
Oui, ce fut un immense soulagement parce que l'individu se boulait, se présentait de telle façon que nous puissions imaginer une erreur judiciaire, mais l'erreur judiciaire qui consistait à ce qu'il s'en sorte.
C'est-à-dire que le risque d'acquittement existe dans votre esprit au début du procès ?
Ah, le risque d'acquittement existait dans la mesure où l'homme est intelligent, l'homme ne lâche rien, l'homme se met dans une position d'innocent et emploie des arguments qui peuvent permettre à certains de considérer qu'il est effectivement innocent. Donc nous étions dans une situation dramatique, d'abord dramatique parce que nous savions ce qu'avait pu endurer cette pauvre fille. Deuxièmement, parce que notre intime conviction était telle que, à l'évidence, c'était boulé, mais ça glissait comme une savonnette.
Qu'est-ce qui vous convainquait absolument de sa culpabilité, au-delà, bien sûr, de l'ADN ?
Au-delà de l'ADN, qui est quand même quelque chose d'énorme, puisque surtout l'ADN a été trouvé sur la lampe qui permettait à l'agresseur d'y voir la nuit. Or, cette lampe qui permettait à l'agresseur d'y voir la nuit était souillée de sang, et sur le sang, il y avait le sang de la victime et le sang de l'agresseur. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Le deuxième élément, c'est que cet homme prétendait avoir s'être amusé pendant un certain temps la nuit des faits. Or, il a pris la précaution de supprimer, si je puis dire, son téléphone, afin que l'on ignore totalement où il se trouvait. Mmh. C'est d'ailleurs une opération extrêmement difficile à mettre en place et qui restait jusqu'à la fin extrêmement mystérieuse.
Mmh. La question de l'ADN sur la serviette est très intéressante. Lui dit qu'il a très bien pu le déposer quand il s'est lavé les mains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais que vous allez faire à ma place. C'est-à-dire qu'il y a quand même un expert au procès qui vient expliquer que même si on a lavé la serviette, il peut encore y avoir de l'ADN dessus.
Oui, bien sûr, mais là où il s'est fait avoir, Boulet, il faut rendre hommage à la police. Là où il s'est fait avoir, c'est quand il a été interrogé et qu'il a indiqué que depuis le mois de juillet, il n'avait plus fréquenté la fille, qu'il l'avait laissée de côté, que leur vie était devenue indifférente, etc., etc. Et par voie de conséquence, l'appartement de la victime était bien entendu rempli d'ADN, l'ADN du père, l'ADN des copains, l'ADN de l'amant, l'ADN de... dans le temps, ces ADN vont s'installer. Mmh. Et malheureusement, pour Boulet, on ne va trouver que l'ADN, son ADN, ce qui signifie en clair qu'il s'est présenté le jour des faits pour que la scène du crime soit souillée de l'ADN.
Oui, c'est-à-dire que lui, son ADN ne figure au fond que sur les objets qui sont liés au crime, c'est-à-dire la serviette, la couette et la lampe frontale.
Absolument. La serviette, il y a des traces, comme vous l'avez tout à fait bien dit, il y a des traces d'essuyage du couteau qui a servi à tuer, et sur ces traces d'essuyage, sur ce sang, il y a l'ADN de l'assassin, il y a l'ADN de la victime. Tout ceci fait que, à l'évidence, c'est un ADN tout à fait contemporain, d'autant plus qu'il est mélangé. Mmh. Sur la couette, on aurait pu trouver, et d'ailleurs on a trouvé l'ADN de l'amant, mais on n'a pas trouvé du sang, ni de mélangé avec celui de la victime. Mmh. Or, le seul sang qui a été trouvé et celui de l'agresseur qui se mélange avec celui de la victime. Alors la lampe frontale, c'est particulièrement évident. D'ailleurs, il a particulièrement menti sur cette lampe frontale. Il a prétendu qu'il l'avait oubliée. Alors il faudrait imaginer que cette lampe frontale soit restée pendant 7 mois dans un coin et que par l'effet d'un miracle, elle ait été souillée de sang et de la victime et de Boulet. Tout ceci faisait beaucoup.
Alors la question du mobile. On envisage que le mobile soit sexuel. Mais il y a quand même quelque chose de très troublant, c'est qu'il n'y a pas eu de viol et non plus de tentative de viol.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu viol ni de tentative de viol, ce qui pourrait a priori éliminer le crime sexuel, en tous les cas une très forte pulsion sexuelle qui va faire que on va violer. Cependant, Il existe en matière criminelle, à l'évidence, des gens qui sont animés de pulsions extrêmement fortes, de pulsions sadiques, surtout quand ils se heurtent à une résistance. Et la résistance, en l'espèce, de cette pauvre fille a été éclatante, puisque les médecins légistes vont découvrir des traces qui vont être symptomatique du fait que cette fille va résister, va présenter ses mains devant l'agresseur qui a son couteau, va être souillée de coups de couteau au niveau des bras, au niveau des mains. Bref, il va y avoir une résistance extraordinaire et dans le cadre de la pulsion sadique, cette résistance va exacerber, bien entendu, le passage à l'acte.
Oui, mais donc, pour un coup de couteau, on comprend, mais pour 63 coups de couteau, on a besoin d'une explication supplémentaire, que d'ailleurs les psychiatres ne nous donnent pas.
Les psychiatres, vous savez, ils ne nous expliquent pas tout. Ce que l'on peut comprendre en étant dans une argumentation de bon sens, c'est que cet homme, ce boulet, désirait cette fille depuis très longtemps. Il était d'ailleurs, un certain nombre de témoins le disent, il était souvent en train de la taquiner, de la draguer, etc., etc. Et puis, en outre, c'était un homme qui avait, on nous l'a dit à plusieurs reprises, un appétit sexuel exacerbé, qui en plus était un grand amateur de couteaux. Bref, tous ces éléments conjugués vont faire qu'il va se pointer aux alentours de 2h30 du matin, passer pour la surprendre sous la souricière, la fameuse porte qui est entrouverte. Et à partir de ce moment-là, il va se trouver face à elle avec sa lampe électrique. Terreur, cri sans doute, et puis immédiatement, cette fille va se défendre avec acharnement, et celui-ci va avoir une personnalité qui va se lézarder, qui va craquer complètement, qui va passer à l'acte. Vous dites un coup de couteau, bien sûr, mais certaines personnes qui correspondent un peu à sa psychologie ou à sa psychiatrie sont des personnes qui se déchaînent littéralement sur leur victime.
Mais quand le psychiatre dit à la barre « Je n'ai pas repéré de toute puissance chez lui et j'ai du mal à conclure, il est difficile de conclure », vous vous dites sans doute à ce moment-là « Aïe, aïe, aïe ».
Ah, il est certain que les psychiatres sont peut-être passés à côté d'une personnalité qui aurait pu se révéler être un criminel en série, parce qu'il présente toutes les caractéristiques de celui qui, d'une façon chafouine, très discrète, va tout seul se pointer chez une personne, l'asséner de coups de couteau, reprendre, comme vous l'avez très bien souligné, un calme olympien, se représenter ou se revenir chez sa copine, laver ses affaires, mettre tout ça à la machine à laver, ranger dans une froideur extrême ses arguments et ensuite crier son innocence. Il y a là une froideur qui est tout à fait singulière et qui vient stigmatiser en quelque sorte des gens qui ont un comportement de sadisme et de cruauté extrême.
Maître Catalin, vous êtes un vieux de la vieille. Les experts psychiatres, fondamentalement, vous en pensez quoi? Parce que là, il est passé à côté, c'est clair.
Ben, vous savez, en principe, les experts psychiatres, très souvent, passent à côté des choses. Car la tâche qui est la leur est très difficile. Il faut qu'ils expliquent toute une série de choses qui ont eu lieu dans l'anormalité. Et la personne qu'ils analysent est devant eux, tranquille, serein, il a des explications à tout, il est très éloigné des troubles qui ont été les siens lors du passage à l'acte, et par voie de conséquence, l'expert fait un peu ce qu'il peut, en dehors des grandes maladies mentales, et il considère que les gens sont normaux, et donc pas dangereux, sens psychiatrique du terme.
Alors il y a aussi une belle leçon à tirer de ce témoignage du voisin de palier qui dit donc qu'il l'a vu après sa mort, en vérité, à 10h du matin, aller à sa voiture et revenir chez elle. Ça, c'est encore la preuve que les témoins, c'est pas fiable, hein.
Ça nous a fait beaucoup peur, parce que en première instance, c'est un appel. Nous avons vu arriver deux personnages qui vivaient d'ailleurs ensemble, qui fumaient pas mal de hashish, qui étaient des personnages marginaux, mais qui affirmaient la tête sur le billot. Ils avaient vu la petite sortir de chez elle à 10h30 du matin, le jour de la découverte. Et donc, ça rendait impossible le fait que Boulet ait pu la tuer, puisque ce matin-là, Boulet avait un alibi en béton, et donc si on avait écouté les témoins, à l'évidence, Boulet s'en sortait parfaitement bien.
Je vous remercie infiniment, Maître Catala. J'étais ravi de parler avec vous de ce dossier.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.